Bonjour à tous. Dans les terres de Provence d'aujourd'hui, sur Radio Dialogue, nous allons parler, Noël approchant, évidemment, d'une association qui manifeste souvent tout au long de l'année, mais qui, à l'époque de Noël, va jouer quand même un rôle important. On n'imagine pas, je crois, en Provence, effectivement, la Noël sans les santons, sans la pastorale, sans les défilés folkloriques. Et le groupe que nous recevons, c'est les Farandulaire Section. Bon, je vous avoue tout de suite que je ne suis pas provençal, je suis plutôt un cousin du Languedoc, et l'accent n'est peut-être pas tout à fait parfait, il voudrait bien m'excuser. Alors, ce groupe est un groupe tout simplement folklorique, d'art de tradition populaire et provençale. Donc, il est bien marqué, effectivement, depuis le début. Alors, les farandoulaires, je suppose que ça doit veut dire quand même les farandoles.
Les farandoleurs, les danseurs de farandole.
Les danseurs de farandole, sextien, ça veut dire quoi ?
Et sextien d'Aix-en-Provence.
D'Aix, ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. Bon. Alors, la farandole, moi, tout de suite, j'imagine une ronde, un défilé, se tenant par la main, une chaîne pleine de gaieté, de joie, d'enthousiasme et de musique. C'est bien ça ?
C'est tout à fait ça. Vous venez de décrire exactement l'ambiance de notre association. Oui. C'est tout à fait ça.
Je vous dis que j'étais un cousin, que j'étais quand même pas du Nord. Hein. Donc, je vois effectivement j'ai un peu de connaissances. Donc, ça porte effectivement donc le nom de cette danse. On peut dire que c'est une danse.
Oui, puisque l'association a débuté justement par un rapprochement de tambourinaire et sestian, qui ne faisaient que de la musique, et de danseurs, donc, qui s'étaient spécialisés dans la farandole. Donc, en 1959, Monsieur Laforêt a eu cette excellente idée de rapprocher les deux entités pour donner naissance aux farandoulaires et sestian.
Et depuis, donc, ça existe et c'est resté toujours fidèle à ses origines.
Oui, tout à fait. Il n'y a que le costume qui a évolué, puisqu'au début, les costumes étaient les costumes de farandoleurs, donc avec des petites jupes blanches ou des pantalons blancs et rouges, alors que maintenant, nous portons le costume des années 1830-1870.
Oui, et d'où venait ce costume au préalable avec des petits pantalons ?
Des regroupements de farandoleurs, puisque c'était plus au niveau des concours, des manifestations plutôt de niveau technique. Donc on avait un costume très simple avec le béret rouge et en étant en rouge et blanc.
Oui, un uniforme pour faire passer un peu les concours.
Oui, voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos danses traditionnelles ont quand même un passé dans la marine et dans l'armée.
Ah bon ?
Donc beaucoup de nos pas viennent de là. Donc voilà pourquoi il y avait cet uniforme.
Ah oui, tout s'explique.
Tout s'explique.
Tout s'explique. Alors, c'est des racines, on parle donc de nos racines, et si on fait donc l'historique, on voit que depuis 1959, vous existez sur Aix, mais votre activité ne se limite pas à la farandole, ce serait un peu limité.
Pas du tout, nous avons énormément d'activités au sein de l'association. Alors bien sûr, notre principale action, c'est la danse, puisque nous sommes amenés à nous produire, parce qu'un des buts de l'association est quand même de maintenir et de faire connaître nos traditions. Donc nous sortons souvent en tant que groupe de danseurs, mais nous avons aussi une chorale, puisque notre but aussi est de maintenir la langue provençale. Donc tous nos chants sont en provençal et ça permet effectivement de faire connaître cette langue qui est malheureusement un petit peu oubliée, malgré les efforts qui sont faits au niveau des scolaires et des écoles auprès des enfants.
Et alors, le chant permet évidemment d'utiliser donc le provençal, mais il y a aussi, si qui dit chant, il y a musique.
Il y a musique, bien sûr. Alors là, c'est pareil, nous ne sortons jamais sans nos musiciens qui pratiquent le galoubé, le tambourin. Nous sommes très modernes, mais nous évitons les CD en prestation. Voilà, donc nous sommes toujours accompagnés.
Le play-by.
Non plus. Non, on va éviter, on préfère à ce moment-là ne pas sortir.
Vous avez raison.
Oui, il y a bien sûr la musique. Et puis, il y a tout un atelier couture de reconstitution de nos costumes, de manière à ne pas perdre ce savoir-faire qui est quand même assez exceptionnel.
Alors, comment il se transmet justement ce savoir-faire ? Alors, je repars du début, les pas de danse. Vous n'avez pas des films quand même qui peuvent vous projeter pour montrer comment il fallait faire ?
Non, mais nous avons des recueils de maîtres de danse qui nous ont été transmis. Et donc, notre travail est de relire ces recueils, de déchiffrer ces descriptions de pas et de les mettre dans nos spectacles et de les rendre vivants.
Ah, donc vous avez des archives
on a des
exploiter.
Archives, oui. Nous avons la chance d'être fédérés, d'appartenir à la Fédération folklorique méditerranéenne, qui est une source immense, justement, de recueil, d'archives. Donc, c'est vrai que nous avons la chance de pouvoir nous baser là-dessus.
Et les informations circulent.
Tout à fait.
D'accord. Alors, vous avez donc des recueils pour découvrir les pas.
Oui. Hein.
Ensuite, mais vous avez aussi la musique traditionnelle. Là, il doit y avoir des portées, et effectivement, qui peuvent effectivement être déchiffrées encore.
Oui, on en trouve énormément. Là, il y a un patrimoine énorme au niveau de la musique. Et on est entouré aussi d'énormément d'associations aussi. Je pense entre autres à l'Académie du Tambourin, qui œuvre énormément là-dessus pour retrouver d'anciennes partitions et de nous les faire aussi passer, faire revivre, de manière à ce qu'on puisse... Ne plus les oublier.
Et pour les costumes, c'est des gravures, non ?
Gravures, bien sûr. Mmh. Pièces anciennes qu'on a pu retrouver aussi. Essayer de voir beaucoup de musées aussi. Le musée du Vieil Aix nous a aidés sur certaines Arles. Aussi, bien que le costume soit un peu différent au niveau du terroir, ça sera plus Château Gombert. Plutôt, parce qu'on dépend plutôt du terroir marseillais, parce qu'en fait, c'est très structuré au niveau du folklore provençal. Donc, on est plus au niveau de Marseille et des costumes marseillais.
Alors, donc, vous avez tout ce qu'il faut pour bien démarrer.
Hein. Oui.
Bon. Mais vous recevez donc des jeunes qui sont intéressés par votre groupe folklorique, dont il faut obligatoirement un apprentissage.
Voilà.
Ce n'est pas du jour au lendemain que je peux danser la farandole ou faire
si,
autre
vous
chose.
Vous pourriez, oui.
Bon.
Vous savez, nous avons des tout petits de 3 ans, mais je ne vous dirai pas l'âge le plus avancé que nous avons au groupe, et avec des membres toujours très, très actifs.
On verra après. Non, mais s'il y a un apprentissage à faire, il faut qu'il y ait des formateurs.
Oui, il y en a. Donc là, c'est pareil, notre fédération est suffisamment bien structurée pour avoir monté des concours et des examens de danse. Donc chaque année, il y a ces examens de danse qui dispensent ou pas de ce diplôme de maître de danse.
Alors, qui c'est qui passe l'épreuve et qui c'est qui juge ?
Alors, Marie, je te laisse la parole.
Ceux qui passent l'épreuve, évidemment, ce sont les candidats qui vont s'entraîner pendant 1 ou 2 ans. Et après, ce sera les moniteurs, donc les maîtres de danse, qui constituent un jury, puisque ce sont les plus anciens, qui vont constituer un jury toujours le jeudi de l'Ascension. C'est ce jour-là, c'est bien précis, depuis plus de 35 ans maintenant. Il passe le jeudi d'Ascension et c'est un jury qui est constitué d'une dizaine de moniteurs et de maîtres de danse, puisqu'on les appelle des maîtres de danse, puisque la fédération est structurée en maîtres de danse et maîtres de musique.
Ah oui, d'accord. Oui. Et donc, ils sont admis ensuite, donc effectivement, ou pas, ils y redoublent, je pense.
Mais ça fonctionne un petit peu comme le patinage artistique, c'est-à-dire que vous avez une première partie de pas imposée, et ensuite, vous avez une danse imposée qui dure un certain temps et qui est présentée donc, devant ce jury de maîtres de danse.
C'est très structuré.
C'est très structuré et c'est reconnu au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports.
Oui. Et oui, puis ça donne un caractère tout à fait sérieux, officiel, effectivement. Bien sûr, oui. Alors, mais est-ce que, puisqu'on parlait de formation, d'apprentissage et de maîtres, ils existent. Alors, les maîtres sont ceux qui pratiquent, qui ont pris de l'expérience, je suppose. Hein. Disons, est-ce que vous recrutez ? Parce que ça peut faire un peu vieillot, un gros folklorique, c'est pour les anciens, on n'est plus à cette époque-là. On peut l'entendre dire, ça, hein.
Alors justement, on est très étonnés parce que ça dépend des périodes. Je dirais que dans les années 80, effectivement, le côté folklorique était très désuet. C'était quelque chose d'assez curieux. Et puis je pense que par l'action de toutes ces associations provençalisantes et de maintien de tradition, on a fait évoluer les choses. Et c'est assez curieux, je dirais, depuis 4-5 ans, il y a un retour pour l'intérêt de nos traditions et il y a énormément de jeunes qui s'y intéressent, que ce soit au niveau musique, que ce soit au niveau danse. Je dirais que le plus difficile, c'est les enfants les plus jeunes. Je crois qu'il y a tellement d'offres au niveau des familles pour les activités extrascolaires que là, c'est un petit peu difficile. Mais c'est vrai que des jeunes de 13-14 ans viennent par eux-mêmes demander à participer à nos activités. Il y a un retour assez curieux
qui nous
enchante. Hein.
Oui, t'as mieux, je comprends. Mais moi aussi, je suis entièrement d'accord pour ce genre de tradition. Mais vous ne savez pas, les tout petits jeunes n'ont pas encore peut-être la notion de la racine. De l'appartenance à que les ados, ils prennent leur choix, ils savent, Ils sont provençaux, donc il faut qu'ils connaissent la Provence. Donc moi, je ne désespère pas, les classes de 3 ans, 4 ans, un jour, vous les verrez arriver.
Hein. Nous y travaillons parce que nous faisons énormément aussi à la demande des enseignants, des interventions dans le milieu scolaire.
Ah oui.
De plus en plus, justement, au moment de Noël, au moment de la Saint-Jean, il y a une curiosité sur ces grandes festivités-là.
Nous faisons une pause musicale, de musique évidemment provençale, et après, nous reprendrons sur vos activités.
Tes dialogues et voir autrement.
Donc Terre de Provence reçoit aujourd'hui le groupe Les Fandaroulaire Section. Pardonnez-moi. Ah si, c'est bien. Au mieux que c'est bien dit. Merci. Voyez, à la fin de l'émission, je parlerai provençal couramment. Hein. Donc, ou alors je m'inscrirai à vos écoles, puisqu'on a dit qu'il y a des cours de provençal à Aix. Hein. Mais quelles sont vos manifestations? Alors, vous allez déjà dans les écoles pour faire connaître cette pédagogique, ce mouvement et cette tradition. Mais on vous voit quand même dans les rues, dans certaines fêtes, et je vous en remercie et je vous félicite. Alors, quelles sont toutes ces activités?
Alors, on va peut-être prendre les choses dans l'ordre chronologique.
Chronologique, comme ça, on n'oubliera personne.
Alors, on va bien sûr parler en premier de Noël.
De Noël.
Alors, c'est effectivement une grosse période de tradition provençale. Le Noël provençal est connu partout dans le monde, je dirais, hein, avec nos santons, etc. Donc, la grande organisation que nous faisons, c'est le souper calendal, la veillée calendal, donc qui se passera cette année le 15 décembre hein, à la salle des Platanes. Et là, nous offrons un repas traditionnel, suivi d'un spectacle traditionnel aussi, qui reprend les pastorales, qui reprend nos chants traditionnels, nos danses traditionnelles, et qui finit généralement par un balletti de Noël.
Alors, s'il y avait des étrangers du dehors qui nous écoutent, il faudrait peut-être qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est cette notion de souper.
Alors, c'est ce qu'on appelle le gros souper chez nous.
Voilà.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il est monstrueux.
Non.
Au contraire, on l'appelle souvent le souper maigre.
Voilà. Oui.
C'est simplement un souper où l'on mange du poisson ce jour-là. La viande est bannie. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, ce souper se termine par nos fameux 13 desserts.
Voilà. Oui, oui. Et c'est avant la messe de minuit.
Voilà.
Donc, on mangeait léger. Et on allait ensuite à la messe de minuit. Et c'est après qu'on faisait le réveillon.
Voilà.
Et voir Alphonse Daudet et l'histoire du prêtre qui ne pense qu'à son réveillon. Bon, donc les gros soupers.
Voilà.
Après.
Après, bien sûr, en début d'année, la marche des rois. Oui. Puisque sur Aix, la cathédrale accueille depuis des dizaines, je dirais même des centaines d'années, cette marche des rois. Donc les farandolaires et cestiens se sont toujours battus pour justement préserver cette célébration à la cathédrale. Alors ça a un petit peu évolué, les temps étant un peu plus modernes, l'animation a aussi un petit peu évolué. Donc une partie a été prise en charge par Histoire d'Aix, qui s'occupe de tout le défilé avec les chameaux, etc. dans la ville. Nous n'intervenons qu'au niveau de la célébration religieuse, puisqu'il y a toute une connotation religieuse dans la cathédrale. Oui. Donc nous y sommes depuis 1959. Oui. Nous n'avons jamais loupé
pas
une
vous,
année.
Certainement.
Ouais, merci.
Alors, disons, les chameaux, c'est la marche des rois. Donc on suppose que ces rois mages arrivant du Moyen-Orient sont arrivés sur des chameaux. Et c'est pour ça qu'on ressort les chameaux à Aix. Voilà. Parce qu'il y a même les prairies aixoises, on ne voit pas beaucoup de chameaux.
Tout à fait. En sachant que la tradition n'était que le côté symbolique de la tradition. Il n'y a jamais eu de chameau dans Aix, etc. Ça a été modernisé, on va dire. Hein. La marche des rois était vraiment que le côté symbolique durant la célébration à la cathédrale.
Oui. En fait, ça symbolise toute une marche de l'humanité vers le Messie qui vient d'arriver. Ouais. Voilà. Et donc, c'est un folklore international, voilà. Pour dire, parce que le chameau, c'est rien à voir avec le folklore.
C'est pour ça que nous sommes présents vraiment qu'à ce moment-là de la célébration.
Et vous animez la messe après.
Voilà.
Alors c'est des chants là.
Alors il y a des chants, il y a quand même l'harmonie municipale aussi qui joue une partie de la pastorale, de la marche des rois, et les petits chanteurs d'Aix bien sûr qui sont là aussi pour animer toute cette cérémonie.
Alors Noël passe. Et qu'est-ce qu'il y a après ?
Eh bien, après, nous allons arriver sur la Saint-Jean, donc au mois de juin.
Entre le mois de décembre et le mois de juin, vous ne faites rien ?
Si, on fait beaucoup de choses. On nous demande aux quatre coins de France,
d'accord.
On dira.
Bon, on
mais
en
tant qu'organisateur, la deuxième grosse festivité sera au mois de juin, le 23 juin, pour la Saint-Jean.
La Saint-Jean. Alors, en fait, on fête l'hiver, on fête l'été.
L'été.
Hein.
L'été.
Et je crois que vous êtes une spécialiste de la Saint-Jean, Madame Elisia.
Je ne suis pas une spécialiste de la Saint-Jean, mais disons qu'il y a à peu près 18 ans maintenant, nous avons eu l'idée de recréer le feu de la Saint-Jean, puisque dans les années 50-55, il se faisait de la montagne Sainte-Victoire. Mais avec les feux, évidemment, qui sont ceux qui étaient, ça a été un petit peu abandonné. Et nous avons eu l'idée de le reprendre carrément à la place de la Rotonde, à Aix-en-Provence. On a eu la chance d'avoir le soutien, évidemment, de la municipalité de l'époque. Et on continue à l'avoir, même aujourd'hui, et heureusement, et on les en remercie. Et donc, cette Saint-Jean s'est développée petit à petit. Avec, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que nous avons un stand toute la journée. Et là, on peut parler, je pense, librement de Saint-Jean-Baptiste et du Christ. Parce que finalement, c'est ça aussi. Hein, je veux dire, à Saint-Jean, ce n'est pas uniquement un feu qu'on va allumer le soir. Ça va être toute la préparation et tout ce qui va amener de dialogue pendant toute la journée avec le stand que l'on met en place.
Oui, donc là, vous avez un aspect spirituel que vous maintenez.
Qui passe très, très bien, parce que tous les ans, nous avons des gens qui sont un petit peu en difficulté et qui viennent presque, je ne dirais pas confessionnal, mais qui viennent nous dire un petit peu leurs problèmes, leurs soucis. Et quand nous avons mis en place le fagot de la Saint-Jean avec le message de la Saint-Jean, ça fait que les gens, plus facilement, acceptent de parler, de faire des choses et reviennent avec un espoir l'année suivante en disant « mon petit message, mon petit vœu, il s'est réalisé, j'ai envie de revenir ». Alors, il n'y en a peut-être que 2-3, mais c'est bien, on est content, on en a 2-3, le message est passé.
Le message est passé.
Alors, ça, c'est le petit côté qui, moi, personnellement, me plaît assez.
Vous aimez, je vois.
Voilà, moi j'aime. En général, rarement, je loupe, hein, je manque ce rendez-vous. Après, c'est vrai qu'il y a un petit, évidemment, le côté de la flamme qui est à laquelle nous sommes rattachés, qui est aussi très symbolique, puisque nous sommes rattachés à la maintenance provençale des feux de la Saint-Jean, dont le président était Lucien Bonnet, et le siège chaudière se trouve à Traits. Et cette maintenance, ce n'est pas un feu qu'on allume avec une allumette. C'est un feu qui vient du Mont Canigou, de Catalogne, qui a été allumé en 55 par Monsieur Iglesias, Jean Pujade. Enfin, il y a toute une... des jeunes de l'époque, voilà, qui sont montés un jour à Moncanigou et qui ont vu un monsieur passer et qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?»« Ben, c'est ma fête et je viens brûler au feu du soleil, je viens brûler ben, les petits objets qu'il avait. » Et ils ont vu ce monsieur, au lever du jour, prendre une loupe et allumer son petit tas de feu.
Ah oui.
Et l'année suivante, ils se sont dit « Mais pourquoi on ne ferait pas une
Seja
à Perpignan ?» Et ça a commencé avec 17 personnes
descendu.
Et aujourd'hui, c'est des milliers qui sont sur la
Et c'est pour ça que dans la Coupe Poussante, on parle des Catalans et des Provençaux.
Disons que c'est un Catalan qui a eu l'idée de oui, reprendre oui, oui. un petit peu tout ça. Le Provençal se sont rencontrés et tous les deux ont eu l'idée de faire une continuité. Et aujourd'hui, le 20 juin, tous les ans le 20 juin, il y a une association qui s'appelle les Joggers de Saint-Cana. Ce sont des coureurs à pied qui sont allés dans du foyer rural Saint-Cana, qui vont chercher tous les ans la flamme à Perpignan, au Castillet, qui est symboliquement une ancienne oui. prison d'État et qui oui. est devenue justement le protecteur de cette flamme. Et cette flamme va partir comme ça, va parcourir 330 km à pied jusqu'à Saint-Cana. Et elle va être relayée ben, par l'Aix-en-Provence qui va aller sur Traite, sur d'autres villages aux alentours. Et cette flamme qui va partir aussi de Perpignan va aller sur Arles. Et d'Arles va partir sur pratiquement tout le sud-est, ça va aller en Ventimiglia en Italie, ça descend sur l'Espagne, en Valence.
Oui, c'est un très beau geste, c'est de transmettre la flamme.
Tout à fait.
Évidemment. Comme... Alors en fait, les Jeux Olympiques n'ont presque rien inventé. Là.
Non, mais là, c'est plus, elle est plus symbolique. Parce que si on avait un jour un cosmonaute ou un astronaute qui ferait une photo à ce moment-là, eh bien, il verrait entre 10 et 15 000 feux s'allumer le même jour à 10h30 le soir, le 23 juin.
Voilà. Et sinon, il y a toujours des feux comme ça dans chaque quartier pour la Saint-Jean, c'est fini.
Sur Aix, non, nous sommes le seul. Sur Aix, nous sommes le seul feu.
Je me rappelle dans mon enfance, dans chaque quartier, il y avait le feu de la Saint-Jean et on faisait le tour en famille des feux de la Saint-Jean. C'est fini là.
Ah oui, c'est fini là, c'est vraiment.
Et il y a Aix qui a maintenu la tradition grâce à votre association.
Voilà. Tout à fait, grâce au Varenne-Vaille-Sessien.
Alors, on passe de Noël au feu de la Saint-Jean, et puis ensuite...
On arrive en plein été.
Et on arrive en plein été.
Et on arrive en plein été. Et là, nous avons tous les deux ans les rencontres des provinces françaises.
Ah.
Donc, nous allons l'été prochain marquer notre cinquième rencontre. Et le but, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les autres cultures de nos provinces de France.
Mais en France.
En France, voilà. Effectivement, on en avait un petit peu assez des différents festivals folkloriques internationaux. Donc, on avait un petit peu envie de se recentrer.
Restons français.
Voilà. Voilà.
Folklorique, restez aussi.
Soyons ouverts, mais déjà connaissons nos voisins avant d'aller peut-être un peu plus loin. Donc, le principe se fait sur un principe d'échange, c'est-à-dire que nous recevons deux groupes de deux provinces françaises. Nous les recevons chez nous pour pouvoir lier amitié. Et nous organisons dans Aix et autour des communes de la CPA des spectacles, donc gratuits, où nous présentons nos trois provinces, nos trois diversités folkloriques. Mmh. Voilà. Donc cette année, nos provinces devraient se rencontrer le 20 juillet.
Le 20 juillet.
Voilà.
Oui. Est-ce que d'une province à l'autre, il y a des danses communes ? Ou différentes.
On en retrouve.
On en retrouve. Parce que je me suis informé, j'ai regardé, et bon, moi, je vais vous le dire, enfin, je suis érolté. Et j'ai vu que votre groupe folklorique avait les chevalets, la danse du chevalet. Or, la danse du chevalet, c'est une gloire de la ville de Sète. Les treilles, c'est Béziers.
Voilà. Hein.
J'en ai vu d'autres comme ça, effectivement, que je connaissais par mon enfance et de chez moi que j'ai retrouvé. Alors, je dis, est-ce que c'est une culture commune ou est-ce que ça a été prêté, transporté
Non, je pense que c'est une culture commune. On a une autre danse qui nous vient en tête, par exemple la danse des cordelles,
voilà.
que vous avez certainement
aussi,
vue, qu'on retrouve et même dans toute l'Europe, puisqu'on on a eu des échanges avec l'Allemagne, et nos amis allemands avaient aussi cette danse, alors chorégraphiée différemment, mais avec le même symbolisme. Donc je pense que c'est une culture commune qu'on a tous ensemble.
Oui. Alors, c'est très intéressant, mais le temps passe quand même, bien sûr. En tant qu'association, quel serait votre souhait le plus important pour votre groupe ?
C'est que nous vivions encore plus de 59 ans dans cette même joie et cette même envie. Et puis, vraiment, toucher un maximum de personnes pour qu'on comprenne nos racines, qu'on puisse comprendre ce qui nous entoure, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut voir, parce que tout est rattaché.
Eh bien, nous séparons sur ces belles paroles, effectivement, et on vous remercie, effectivement, de maintenir selon ces traditions, comme vous dites, qui sont toutes nos racines, et d'apporter quand même dans notre vie, qui est parfois un peu grise, eh bien, du mouvement, de la joie, de l'élégance. Hein. Il y a des costumes, il y a des pas qui sont très, très élégants, et donc, ils font souvenir qu'une province peut vivre, une province qui est la Provence peut vivre, effectivement, aussi avec de ce très bons souvenirs. Mais avant quand même de nous séparer, il serait intéressant de connaître vos adresses, vos coordonnées, pour qu'un auditeur ou des auditeurs, je n'en doute pas, jeune ou moins jeune, puissent vous contacter s'il est intéressé par vos manifestations. Alors je vous laisse dire donc votre adresse, téléphone, courriel.
Alors, nous sommes les Farandoulaï Restestiens. Nous avons nos répétitions tous les vendredis soirs à l'espace Frédéric Mistral, à l'avenue Laurent Vibert, à Aix-en-Provence. Pour nous joindre, vous pouvez téléphoner au 04 42 29 72 25. Mais vous pouvez aussi consulter notre site qui est régulièrement mis à jour sur farandoulaï-sestiens.fr.
Voilà, eh bien, on vous remercie beaucoup.